Merci. Oui, alors en effet, on va se déplacer un petit peu, opérer un petit déplacement dans le système éducatif, parce que j'ai cru comprendre qu'il n'avait pas été beaucoup question du secondaire et du professionnel en particulier. Donc on reste dans l'éducation prioritaire, hein, mais on va entrer, je vous propose d'entrer dans un lycée professionnel. Alors on est à Grenoble en 2001. Et je débute alors ma thèse dans un laboratoire qui s'appelle le LIDILEM, laboratoire de linguistique et didactique des langues étrangères et maternelles, dont un assez grand nombre de travaux portent depuis plus de 20 ans sur des situations plurilingues résultant de migrations en lien avec l'insertion sociale et scolaire d'enfants de migrants. Ces recherches à orientation sociolinguistique, elles ont également ouvert des perspectives prometteuses dans le domaine didactique. Donc elles sont en fait à la croisée des champs sociolinguistiques et didactiques, en prenant notamment assez tôt le parti de renverser le regard sur la question toujours éminemment sensible et complexe du plurilinguisme comme atout ou comme handicap linguistique. Alors ces recherches, en effet, elles ont très tôt envisagé la diversité linguistique comme un atout potentiel pour l'éducation, dans certaines conditions qu'il convenait donc de définir. Alors par exemple, avec le développement de comparaisons interlangues dont il a été question très rapidement ce matin, mais pas seulement, et je reviendrai peut-être sur d'autres aspects, bien que ça n'était pas mon projet de focaliser sur cette démarche didactique. De toute façon, elle sera présente au fil du récit que je vous propose. Et on pourra y revenir dans la discussion. Alors, dès les années 80, c'est un courant didactique venu d'Outre-Manche, qui a été évoqué aussi ce matin, qui s'appelle Language Awareness, qui a été repéré comme une des voies prometteuses à explorer pour favoriser l'insertion scolaire des élèves plurilingues ou potentiellement plurilingues, tant en ce qui concerne l'appropriation de la langue française et de scolarisation que celle des autres langues. Dès lors, des activités d'ouverture et de conscientisation de la pluralité de la variation linguistique ont été mises en œuvre, surtout à l'école primaire dans un premier temps, dans le cadre de différents projets de recherche, dont le projet Evlang, qui s'est déroulé de 97 à 2000. Donc en 2001, on est vraiment juste à la fin du projet Evlang. Et donc des travaux sur les situations plurilingues, les migrations et l'insertion scolaire des enfants de migrants. Et c'est en raison même de la connaissance qu'elle a de ces travaux que la direction d'un lycée professionnel s'adresse au LIDILEM pour une proposition de collaboration, proposition assez rare, hein, à ma connaissance. Donc une demande émanant de la direction d'un lycée professionnel. Donc le projet, il consiste en fait en un échange de bons procédés. Les portes de l'établissement seront largement ouvertes à des chercheurs dont on attend en retour qu'ils s'impliquent dans des actions en vue d'améliorer les performances langagières et scolaires des élèves. Alors cette proposition, elle reçoit d'emblée un accueil très favorable de la part de la directrice du laboratoire, Jacqueline Billiez, qui me propose de réaliser ma thèse dans le cadre de ce projet qui est stimulant à plus d'un titre. Bon, d'abord parce qu'il s'agit d'une recherche collaborative avec des enseignants, que cette demande vient de certains enseignants. Ensuite, il représente une perspective de continuité de recherche menée à Grenoble sur les pratiques et les représentations langagières de jeunes descendants de migrants. Et puis, c'est la possibilité aussi de travailler dans le contexte de l'enseignement professionnel, qui constitue une occasion d'appréhender les comportements langagiers d'acteurs d'un secteur du système éducatif français qui est encore assez mal connu sous cet angle. Enfin, cette collaboration, elle est susceptible de prolonger à un autre niveau du système éducatif l'expérimentation de la démarche Evlang. Alors, en réponse à cette demande, on établit avec le lycée une convention de recherche collaborative avec trois grands axes de collaboration. Une recherche descriptive sur des répertoires verbaux des élèves. Alors les répertoires verbaux, j'ai pas entendu l'expression ce matin. Donc peut-être qu'il faut que je définisse rapidement. On appelle le répertoire verbal, c'est l'ensemble des ressources linguistiques, langagières dont dispose un locuteur pour communiquer verbalement. En sociolinguistique interactionnelle, c'est une notion assez centrale, qui est étroitement liée à la notion de compétence de communication aussi, en ethnographie de la communication. Donc des sessions de formation en direction des enseignants de lettres histoire et lettres anglais, sessions de formation conçues en prenant appui sur les résultats des recherches menées sur le premier axe. Et puis la conception et l'expérimentation d'activités pédagogiques. Alors ces trois volets de coopération, ils ont constitué le fil conducteur de mon travail, pour lequel j'ai investi l'établissement pendant près de 4 ans, pour essayer de comprendre comment différentes formes d'hétérogénéité linguistique et langagière étaient interprétées, produites et gérées par les différents acteurs de la communauté scolaire. Alors avec cet objectif, j'ai mis en œuvre une approche sociolinguistique, interactionnelle et ethnographique, qui combinait plusieurs modalités de production de données, hein, d'observables, afin d'appréhender donc des formes d'hétérogénéité dans un lycée qu'on peut qualifier de socialement et scolairement disqualifié, et donc un espace de tension sociale et idéologique assez important. Comme premiers éléments de contexte à l'échelle de l'établissement, je peux dire en effet que ce lycée professionnel se place dans la catégorie des établissements scolaires, disons, les plus fragilisés du système éducatif français. Bon, il connaît une notoriété peu valorisée dans l'environnement grenoblois. Notoriété qui est liée entre autres à son label ZEP, hein, à son label professionnel et à sa situation socio-urbaine que je qualifierais rapidement de périphérique et économiquement défavorisée. Donc un lycée professionnel globalement disqualifié, mais qui connaît bien sûr, à y regarder d'un peu plus près, une forte diversité interne, y compris sur le plan sociolinguistique qui m'intéresse en premier lieu. Et c'est ce qu'ont d'abord montré 2 enquêtes par questionnaire à l'échelle de l'établissement, que je ne vais pas détailler, hein. Je m'attacherai plutôt à présenter des données beaucoup plus qualitatives. Mais seulement 2 résultats. D'abord, ces enquêtes, donc l'enquête pratique langagière des élèves vue par les élèves, a confirmé que le plurilinguisme grenoblois lié aux migrations trouvait bien une concrétisation partielle, un reflet partiel dans les réponses des élèves, avec un très gros effet de loupe dans les filières les plus dévalorisées. 60% des répondants déclarant utiliser quotidiennement au moins une autre langue que le français dans ces filières. Ces enquêtes ont confirmé par ailleurs, et c'est le deuxième résultat que j'évoquerai simplement, l'existence d'un très très grand écart entre cette diversité linguistique décrite par les élèves et la focalisation presque exclusive des enseignants sur des bilinguismes arabe-français supposés constituer les répertoires verbaux de certains élèves, je dis bien de certains élèves, des filières dévalorisées. Alors ce hiatus entre la diversité linguistique telle qu'elle est décrite par les élèves et telle qu'elle est perçue par les enseignants est à mon sens un des éléments clés de compréhension d'un contexte qui justifiait particulièrement selon nous, et avec certains enseignants nous sommes tombés d'accord là-dessus, une réflexion didactique sur la place et sur le rôle de la variation et du plurilinguisme. Alors pour documenter cette réflexion didactique qui est toujours en cours, hein, c'est un gros chantier quand même, hein, la didactisation de la variation et du plurilinguisme, c'est un chantier didactique, donc qui nécessite d'être documenté en partie. Donc pour documenter cette réflexion didactique, j'ai réalisé une enquête ethnographique beaucoup plus locale, hein, on passe de l'échelle établissement à l'échelle d'une classe, donc dans une classe de BEP secrétariat comptabilité. Alors j'ai accompagné pendant toute une année scolaire et un peu plus, enfin surtout pendant une année scolaire d'observation participante, les élèves de cette classe dans un certain nombre d'activités. Et les relations établies avec eux ont permis d'enregistrer des interactions dans des situations de communication variées. Alors c'est un aspect du travail qui peut paraître évident, mais qui méthodologiquement pose des questions et des difficultés qui ont été en partie surmontées, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc des interactions dans des situations de communication variées, interactions enregistrées, et ces relations qui ont été instaurées m'ont permis aussi d'avoir accès à des fragments des biographies langagières des élèves. Alors pas seulement, mais notamment par le biais d'entretiens semi-directifs, entretiens biographiques. Ah voilà, j'en ai sauté une. Donc sur les 23 élèves de cette classe, donc élèves qui avaient entre 16 et 18 ans, 19 étaient des filles et toutes, sauf une, déclaraient vivre au contact de plusieurs langues. Alors la liste que vous voyez offre, je ne sais pas si vous pouvez lire, enfin on y reviendra de toute façon, la liste de vignettes affichée sur la diapo offre un aperçu de la pluralité des ressources linguistiques, alors je dis bien linguistiques et pas langagières dans ce cas-là, des élèves, telles que ces ressources ont été désignées pendant des entretiens. Donc telles qu'elles ont été construites et désignées pendant ces entretiens. Donc on voit qu'il y a des désignations qui sont assez largement partagées, et puis d'autres qui sont en italique, que je considère comme étant moins largement partagées, hein, comme le Brun, par exemple, alors qui en fait est très largement partagé comme désignation dans le réseau scolaire, dans la communauté scolaire, et surtout des élèves. Mais je suis pas sûre que tout le monde ait entendu parler du Brun comme référent à l'arabe dialectal. Voilà. Donc c'est une désignation tout à fait courante pour renvoyer à l'arabe dialectal chez certains élèves. Alors 18 adolescentes, donc sur 19 filles, et je me suis intéressée surtout aux filles pour la simple raison que les garçons étaient quasiment tout le temps absents dans la classe, donc c'est pas un choix, les filles se sont imposées, quoi. Et sur les 19 filles, 18 se présentent donc comme des héritières plurilingues d'histoire migratoire familiale. Les expériences langagières qu'elle relate s'inscrivent en effet dans l'histoire des migrations et des situations de contact de langue qui en découlent à Grenoble. Et selon différentes modalités de contact avec le français, les environnements linguistiques de ces jeunes filles peuvent comprendre depuis leur petite enfance, donc la plupart ont vécu une socialisation langagière plurilingue, dans plusieurs langues. Donc ces expériences comprennent des langues du Maghreb, du Cameroun, des Comores, d'Arménie, d'Italie et du Portugal. Alors à l'aide de représentations graphiques que je vais vous montrer, j'ai essayé d'illustrer la complexité et le caractère labile de ces répertoires linguistiques. Alors à l'échelle individuelle, donc à l'échelle des sujets, hein, et en essayant de prendre en compte la dimension biographique. Donc cette représentation graphique, elle prend en compte quatre principaux paramètres de changement ou d'évolution, de variation des répertoires. Donc on va voir que les ressources linguistiques mobilisées par un même locuteur, en l'occurrence une même locutrice, varient plus ou moins au fil du temps, selon les lieux de résidence, selon les différents contextes d'interaction sociale auxquels les locuteurs participent, et selon les fonctions qu'ils attribuent à ces ressources. Alors je reviens à cette liste de vignettes de couleurs qui donne un aperçu de la diversité des lectes que les jeunes filles mentionnent comme faisant partie de leur répertoire. Alors, peut-être un mot à propos du choix du terme lect plutôt que langue, c'est qu'il permet de renvoyer non seulement aux langues, qu'elles soient officielles ou non, qu'elles soient reconnues ou non, mais aussi à des variétés linguistiques ou encore à des styles de parole, et j'y reviendrai. Donc c'est un terme plus englobant et qui est beaucoup plus technique, parce que c'est un terme qu'on utilise davantage dans le champ des sciences du langage et de la linguistique que dans d'autres endroits, mais il est assez pratique pour éviter des malentendus que qui peuvent découler de l'utilisation du terme langue. Donc ici, on est sur des catégories de pratiques langagières, donc les locuteurs, les sujets catégorisent le langage, les pratiques langagières en lectes. C'est-à-dire qu'ils vont donc associer une catégorie à une désignation, et moi je vais appeler ça un lect. Voilà. Donc ces lectes, bon, ici vous en avez un aperçu, arabe parlé maghrébin, arménien, coratin, français cassé, italien, kabyle, portugais, et puis des parlés que les adolescentes rapportent à leur pratique entre pairs, et puis aussi le russe, le sicilien et les langues enseignées à l'école, qui sont parfois quand même un petit peu oubliées dans les récits biographiques, faut dire. Mais parfois ce sont les autres hein, qui ne sont pas mentionnés, et je reviendrai plutôt là-dessus. C'est donc avec cette palette de couleurs, et en faisant varier la taille des vignettes, que j'ai représenté les répertoires des adolescentes, et plus exactement donc la manière dont elles décrivent la mobilisation de leurs ressources dans différents contextes. Alors voici par exemple la représentation graphique du répertoire de Silva, où l'arménien est en rouge, le russe en orange et le français en bleu. Alors je vais décomposer rapidement la construction de ces schémas pour que vous puissiez les lire et les comprendre. Alors on a d'abord des macro-contextes qui se dégagent des biographies langagières. Donc pour Silva, on a un macro-contexte arménien avant la migration. Puis, à Grenoble, à l'époque de l'arrivée de Silva avec sa famille, Silva avait 12 ans. Donc elle décrit sa biographie langagière, reçoit ici une phase très distincte des autres. Elle décrit très longuement son arrivée, l'arrivée de la famille en France quand elle avait l'âge de 12 ans. Et là, elle parle beaucoup de l'école. Et enfin, une troisième phase qui correspond à l'époque de la recherche. Donc trois macro-contextes. On place ensuite des petits dessins, des symboles qui renvoient donc en fait aux sphères d'activité quotidienne des sujets. Donc en gros, on a l'ellipse qui renvoie à la sphère des activités domestiques, qui ne se réduisent pas à la famille, mais qu'on peut, en simplifiant, appeler sphère des activités familiales. Le soleil qui renvoie aux activités de loisirs et le triangle à l'école. Les symboles ont été choisis avec des élèves, hein, puisque les schémas ont été, dans la mesure du possible, conçus avec ou vérifiés par, enfin voilà, en collaboration avec les sujets de la recherche, qui étaient aussi des collaborateurs de la recherche. Donc, les sphères d'activité sociale. Et donc, on mentionne enfin dans ces symboles, des situations types d'interaction qui sont associées aux lectes utilisées. Donc, par exemple, dans le premier macro-contexte pour Silva, dans la sphère familiale, l'arménien est en rouge on voit que c'est la principale langue de communication familiale. Voilà, si on compare les trois sphères domestiques, d'activités domestiques, on se rend compte que l'arménien va conserver une place importante dans les échanges et que le français va également s'introduire dans les échanges, dans la communication familiale. Bon, je ne vais pas trop détailler. Donc, je vais prendre surtout un deuxième exemple. Donc, celui d'Ouria. Alors, c'est une élève de la même classe. Hein, et contrairement à Silva, elle n'a pas vécu elle-même de trajectoire migratoire. Mais son histoire familiale implique des séjours annuels, donc des mobilités pendulaires, hein, des séjours annuels en Algérie, ce qui explique la présence de deux macro-contextes algériens dans lesquels le répertoire de Ouria se reconfigure de manière assez contrastée, avec l'utilisation de l'arabe parlé algérien et du kabyle qui va s'intensifier à l'occasion de ses séjours, qu'elle effectue régulièrement à Alger et à Bouira. On peut noter donc que à Alger, l'arabe parlé est utilisé en réception et en production, notamment avec sa grand-mère paternelle qui n'est pas francophone. Donc l'utilisation de cette langue se fait en réception et également en production à Alger. Et c'est le kabyle qui domine à Bouira dans sa famille maternelle où elle utilise aussi le kabyle en réception et en production. Alors ces représentations graphiques, elles illustrent donc bien des correspondances entre des différents types de mobilité, des rencontres liées à ces déplacements et des reconfigurations des répertoires. Alors dans le contexte français, on voit que Ouria déclare utiliser trois langues de son répertoire de manière différenciée selon ses interlocuteurs. Alors le français est largement majoritaire en production et en réception, dans les échanges avec son père et son petit frère, alors qu'elle mobilise essentiellement une compétence de réception en kabyle et en arabe algérien pour communiquer avec sa mère. Et elle utilise le français en production. D'accord ? Donc en Algérie, elle utilise l'arabe algérien et le kabyle en réception et en production. En France, elle déclare ne l'utiliser qu'en réception. Mais elle l'utilise quotidiennement en réception. Pour Vanessa, dont le père est d'origine algérienne et la mère d'origine portugaise, l'acquisition et la pratique du portugais sont étroitement associées à la relation privilégiée qu'elle entretient avec sa grand-mère maternelle, qui a immigré du Portugal depuis une quarantaine d'années et qui réside à Grenoble. Donc on voit ici que cette relation, elle se conjugue avec le tissage de liens très forts au sein d'un réseau familial élargi, d'une partie de la communauté portugaise de l'agglomération grenobloise, d'où la présence du portugais dans les sphères domestiques, mais aussi des loisirs. Vanessa utilise le portugais en famille avec sa grand-mère, mais aussi avec de nombreux autres interlocuteurs dans le cadre de ses loisirs qui se déroulent dans une association portugaise de Grenoble, où elle fait partie depuis longtemps d'un groupe de danse folklorique. Ça a été évoqué ce matin, mais parce que c'est assez fréquent. Donc on voit bien que le développement et la mise en œuvre des répertoires verbaux des locuteurs sont absolument indissociables de leurs relations sociales, des activités qui s'y déroulent et des réseaux dans lesquels ils sont insérés et dans lesquels ils se socialisent. Alors la comparaison du répertoire de Vanessa avec d'autres, avec les répertoires des autres élèves fait apparaître des situations très distinctes. Pour d'autres enquêtés, certaines langues sont aussi utilisées de manière intensive et régulière, mais dans un nombre beaucoup plus faible d'activités et avec un nombre plus restreint de locuteurs, enfin de partenaires conversationnels, d'interlocuteurs. Alors c'est le cas par exemple de Ouria avec le kabyle en France, hein, qu'elle utilise quasiment exclusivement avec sa mère. C'est encore plus nettement le cas pour Sakina, qui déclare n'être en contact avec l'arabe dialectal qu'au sein d'un noyau familial et surtout dans des échanges où les langues sont alternées et mêlées. Donc elle n'a pas connu de migration. Elle n'est jamais allée en Algérie, donc ses parents sont algériens, immigrés algériens, mais la famille a rompu les liens avec avec l'Algérie. Donc l'arabe dialectal est utilisé, mais elle déclare n'être en contact avec cette langue et l'utiliser quotidiennement qu'au sein de la famille qui comprend ses parents, frères et sœurs. Donc Sakina, elle désigne ce parler familial par le terme « remix », dont elle offre une description vraiment assez fine, que j'ai pu confronter aux enregistrements qu'elle a réalisés chez elle. Donc elle s'est auto-enregistrée pendant une semaine entière, en notant les activités, les intervenants dans les interactions. Bref, ça fait aussi l'objet d'un travail. Mais ici, je m'en sers simplement pour vous faire entendre ce qu'elle désigne par le terme remix, qu'elle a demandé à faire connaître. Donc c'est non seulement à titre illustratif, mais aussi c'est une forme de contre-don à l'enquêté, qui au terme de ce travail, a demandé à ce que on connaisse ce type de pratique. Voilà. Donc je vous fais écouter cet extrait, mais avant peut-être quelques éléments de contexte. Donc on est chez Sakina, c'est la fin du déjeuner, et son frère, un de ses frères, ouvre la séquence par une critique de la qualité du café qu'il adresse à sa sœur. Et puis s'ensuit un échange à propos du café entre Sakina et sa mère. Donc vous avez la transcription, je crois, sur l'exemplier, c'est l'extrait A. Donc j'ai transcrit les passages en français sur l'exemplier et j'ai signalé les passages à l'arabe parlé algérien avec leur contenu approximatif en français. Donc ce n'est pas une transcription, une traduction fidèle, mais... Donc je vous fais écouter, si.
Si le café, pas une thune.
C'est pas moi qui l'a fait, c'est normal, il vaut qu'il va le chier.
Pas une thune.
Bah, c'est qui l'a fait le café?
Moi, je ne sais pas.
Bah, en fait, il est bon.
Alors lui, ça fout bien, il va faire ça, parce que... T'as eu le choix,
Moi, franchement, je vois pas la différence entre un bon café et un mauvais café. Tant que c'est du café mélangé à du lait, tout ce que je sais.
Il y a moi qui dis le lait, je dis ça pour que gaz. J'ai pas pu le faire,
bébé,
que
ça me De quoi, des sabha, elle est restée. Ça doit être papa, il a dû le mélanger parce qu'il jette jamais.
Voilà, donc c'est bon, il y aurait évidemment beaucoup de choses à dire sur cet échange. Je m'entretiendrai ici seulement à pointer le fait qu'il permet de mettre en évidence un aspect de la compétence plurilingue qui est généralement très peu valorisé, voire complètement ignoré, et qui constitue bien une forme pourtant de ressource. C'est la compétence de compréhension, de réception. Donc ici, en arabe parlé maghrébin chez Sakina, en français chez sa mère, compétence primordiale dans les modalités de communication bilingue tout à fait ordinaire et par exemple mise en œuvre dans cet extrait. Alors de manière assez attendue, hein, les phénomènes d'alternance et de mélange de langues sont mentionnés par de très nombreux élèves de cette classe comme étant des modalités ordinaires de leur communication familiale, mais ils ont eux-mêmes très souvent tendance à les minimiser, voire à les occulter, ou à les dénigrer, surtout lorsqu'une des langues est utilisée en réception davantage qu'en production, et selon évidemment aussi le statut de la langue, et le statut de la langue est toujours rapporté au statut des locuteurs. Donc cette auto-dévalorisation de certaines langues et de certaines compétences langagières, elle est sans doute à mettre en relation avec leur très faible valorisation justement dans les sphères extrascolaires, et sphère extrascolaire qui comprennent bien souvent celle de la famille, et dans la sphère institutionnelle de l'école, donc par des enseignants, mais aussi par des élèves. On va le voir d'ailleurs tout à l'heure de manière plus concrète. Donc certaines désignations que les adolescentes utilisent pour nommer des langues familiales renvoient d'ailleurs assez clairement à l'intériorisation de cette minorisation. Par exemple, Sakina, au début de l'année, nomme l'arabe dialectal de ses parents « arabe barbare ». Donc, quand elle désigne la langue de ses parents, enfin la langue d'origine de ses parents, elle utilise l'expression « arabe barbare » qu'elle oppose au vrai arabe. Donc là, on est dans une expression de l'intériorisation d'une diglossie, dans ce qu'on appelle... j'ai entendu ce matin le terme, donc je le réutilise, mais je ne sais pas s'il est très partagé. Bon, enfin, c'est donc de statut très différencié de l'arabe littéraire ou de l'arabe classique et des pratiques en arabe dialectal. Cette faible valorisation de compétences plurilingues, que les élèves donc ont le plus souvent, surtout des élèves de cet âge, hein, donc après il y a une grosse réflexion à mener en amont qui est conduite, hein, mais donc des élèves de cet âge, souvent ils ont vraiment bien intégré la dévalorisation des compétences plurilingues, donc ne s'accordant le plus souvent pas à eux-mêmes le statut de bilingue ou de plurilingue. Alors on peut aussi mettre ça en relation avec une image qui est renvoyée à certains d'entre eux, image qu'ils intériorisent aussi plus ou moins et qui semble les enfermer dans une façon de parler en français, façon de parler qui est socialement négativement marquée et particulièrement au sein de l'espace scolaire. Donc après cette description de quelques aspects de l'hétérogénéité déclarée des répertoires linguistiques des élèves, je vous propose maintenant de nous pencher sur la façon dont des ressources langagières des adolescentes sont mobilisées au sein du lycée et en s'intéressant premièrement au rôle de ces ressources dans des dynamiques relationnelles entre deux groupes d'élèves dans cette classe et au sein de ces groupes. Alors la configuration de cette classe, elle se caractérisait en effet de manière assez classique, hein, d'ailleurs, par la construction de deux mini-réseaux relationnels et communicatifs, donc deux groupes de pairs féminins qui tendaient à se différencier très nettement au fil du temps. Alors ces deux groupes de pairs, je les ai appelés le groupe des 6 et le groupe des 13 sur la base de du nombre de leurs membres respectifs et pour ne pas reprendre des désignations que ces groupes recevaient dans la classe et qui étaient souvent très évaluatives, axiologiques. Donc voilà, j'ai trouvé ces deux expressions pour désigner ces groupes de manière plus neutre. Donc on peut dire que pendant toute la période de l'enquête, les relations entre ces deux groupes étaient tendanciellement conflictuelles, comme elles l'étaient aussi entre le groupe des 13 et des enseignants, pas tous mais beaucoup, ce que traduisent grossièrement les couples de désignation que j'ai rassemblés dans le tablau sur la première page de l'exemplier. Donc désignation plus ou moins largement partagée par les différents acteurs de la communauté scolaire. Alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, ces deux groupes, donc vous avez les prénoms, enfin ce sont des pseudonymes, hein, mais qui ont été choisis en fonction de critères de correspondance avec les prénoms réels. Donc vous avez les prénoms des membres des deux groupes sur la première page de l'exemplier aussi. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ces deux groupes ne clivent pas exactement des origines socio-ethniques différentes et homogènes. Chacun de ces groupes se compose de descendantes de migrants d'origines diverses. Autrement dit, on n'a pas d'un côté des Françaises dites de souche et de l'autre seulement des jeunes filles issues de l'immigration maghrébine. Les deux groupes sont de ce point de vue plus hétérogènes qu'il n'y paraît. Mais, comme on va le voir, des élèves, entre elles, s'attribuent réciproquement ces identités socio-ethniques et les intériorisent à divers degrés et de manière assez variable selon les situations. Alors bien sûr, les différenciations entre ces groupes, elles se manifestent sous de multiples aspects, et donc je m'intéresserai surtout au plan langagier, donc elles se manifestent aussi au plan langagier. Et sur ce plan-là, dans leur pratique langagière, dans la manière dont elles se représentent les langues, dans la manière dont elles se représentent des styles de parole, des genres, les normes de communication ou encore les apprentissages linguistiques. Alors en rupture avec la diversité des pratiques plurilingues qui sont déclarées en usage à l'extérieur du lycée, de manière très attendue encore, le français est largement, dans ce contexte scolaire, très largement prépondérant dans les échanges au lycée. Mais seules les filles du groupe des 13 se voient attribuer par d'autres élèves et par des enseignants l'usage de formes stigmatisées dans leur façon de parler en français, façon de parler en français ou formes qui sont rattachées à la langue arabe dans les discours qui décrivent ces façons de parler. Alors en fait, on peut dire, en allant un peu vite, hein, mais que les descriptions majoritaires des filles du groupe des 13, elles renvoient à la catégorie supralocale, enfin celle de la figure type du jeune maghrébin des banlieues françaises, dans une version féminine, et ça renvoie au style de parole qui lui est associé aussi. Ces adolescentes, elles font l'objet de représentations et d'attitudes assez négatives à la fois de la part d'enseignants et des élèves du groupe des 6 qui décrivent les pratiques communicatives du groupe des 13 de manière stable comme déviante par rapport à ce qui est attendu et jugé acceptable dans l'espace scolaire. Alors c'est ce qu'illustre par exemple un premier extrait d'entretien avec deux membres du groupe des 6. C'est l'extrait B sur l'exemplier, je crois. Donc vous l'avez sous les yeux, on va pas le lire, hein, on n'a pas le temps, mais je vais me centrer sur quelques-uns des segments en gras. Alors juste avant cet extrait, j'ai demandé à Ambre, donc qui est la seule élève de la classe à se déclarer monolingue et qui est en même temps leader du groupe des 6, ce qu'elle entendait par le terme française. Terme ethnonyme qu'elle vient d'utiliser pour désigner son propre groupe, enfin les membres de son propre groupe, donc le groupe des 6. Alors ce travail d'explicitation, donc elle est en train de m'expliquer là ce qu'elle entend par française, ça va la conduire, enfin ou les conduire, parce que Ambre, donc c'est Ambre et Lilia, hein, qui sont en train de, dans cette situation d'entretien. Ce travail d'explicitation va les conduire à décrire en quelque sorte en creux une altérité conflictuelle dans la classe. Alors dans leur discours, la différenciation entre les deux groupes, elle repose sur la présentation de plusieurs traits diacritiques. D'abord le phénotype, l'attitude et les résultats scolaires et des comportements langagiers. Alors par exemple dans le tour 13, donc le tour c'est la ligne, hein, grosso modo, Ambre attribue une fonction cryptique à l'utilisation de l'arabe au lycée quand elle dit « elles n'ont pas besoin de parler en arabe devant nous, c'est qu'elles ont quelque chose à cacher ». Alors ce discours, l'ensemble du discours, il comprend plusieurs éléments assez récurrents, fréquents dans d'autres discours. Certains éléments se retrouvent aussi dans des discours d'enseignants du lycée, comme par exemple le thème de l'arabe cryptique, hein, c'est très très courant. Et en fait, quand on, enfin, si on se base sur des observations répétées, durables, dans diverses, un grand nombre de situations, cette attribution, je crois pouvoir dire qu'elle sert plus souvent à tracer les rapports de force qui caractérisent les relations entre les groupes ou entre les individus, qu'à renvoyer à des pratiques qui seraient effectivement observables, où l'arabe serait réellement utilisé dans des échanges à fonction cryptique. Alors, ce qui est observable, en revanche, Donc moi, je n'ai jamais assisté à des échanges, des énoncés complets en arabe au lycée. Alors, ce que j'ai observé en revanche, c'est que pour les membres du groupe des 13 et puis d'autres élèves, hein, je reste centrée sur cette classe, mais c'est appuyé d'observations et de temps passé avec beaucoup d'autres élèves. Pour les élèves du groupe des 13 et d'autres, le lycée professionnel constitue clairement à la fois un espace privé de socialisation entre pairs et un cadre normatif dont les règles se transgressent et s'observent en alternance. Alors, il n'est pas rare que ces adolescentes cherchent à composer avec deux sources de pression normative en tension, hein, continuellement. D'un côté, celle du groupe de pairs dont les normes langagières et interactionnelles, enfin, dont interactionnelles servent la manifestation, hédoniste du groupe et servent la privatisation d'espaces scolaires qui sont théoriquement réservés au travail. Et puis, de l'autre côté, la pression normative de l'institution scolaire qui s'impose dans des sanctions souvent symboliques et parfois aussi réelles des professionnels de l'éducation. Donc, dans leur tentative de composition à l'intérieur de ces cadres normatifs, ces filles mettent souvent en œuvre des stratégies identitaires et langagières qu'on pourrait qualifier comme étant sur le fil du rasoir en empruntant une expression à Peter Woods. Donc parmi les filles qui participent à ce groupe des 13, Lamia est une des leaders du groupe et la plus régulièrement citée par des membres de l'autre groupe, par des enseignants, bref, par tous ceux qui ne font pas partie du groupe comme étant une locutrice type du style communicatif qui est associé au groupe des 13. Alors, sa façon de parler est considérée comme un attribut emblématique de cette identité peu valorisée, identité dans laquelle elle apparaît complètement enfermée aux yeux de bon nombre d'enseignants, de certains élèves, et je dois dire que pendant très longtemps, j'ai cru que Lamia était effectivement soit incapable, soit totalement dans le refus d'endosser d'autres rôles sociaux et du coup d'actualiser d'autres manières de parler, d'autres façons d'utiliser le langage. Alors on peut se demander comment Lamia reçoit ce type d'attribution et comment elle se positionne par rapport à ce style qui lui est attribué et qui souvent, alors dans ce contexte, appelé raton, donc voilà, langage racaille, raton, enfin c'est plus souvent raton qui est utilisé que racaille d'ailleurs. Mais donc dans l'extrait C de qui renvoie donc à un extrait d'entretien, Lamia évoque le rôle normatif que son frère, un de ses frères, assume en lui reprochant justement de parler comme une ratonne, donc équivalent féminin de racaille. Alors je vais vous faire écouter cet extrait.
Mais maintenant, mais pour la moindre chose, ça y est, je suis une ratonne. Je vais dire la vie de ma mère, ça y est, je suis une ratonne. Ça, je vais dire, ma parole, c'est vrai. Hop. Pour pas jurer, je vais dire ma parole, il va quand même dire je suis un.
Ah ouais.
La moindre chose, ça y est, lui, il veut que. Attends, il faut pas abuser, je vais pas parler aussi du soutenu aussi. Hein. Oh, excuse-moi, tu peux me passer le verre, s'il te plaît, car j'en ai besoin pour boire un coup. Faut pas abuser aussi. Hein.
Pourquoi tu voudrais pas parler comme ça?
Je vais pas parler de langage soutenu, je parle normalement. Ah. Correct, normal. Ouais. Pas besoin de. Je vais pas dire. Oh, donne-moi ça, sinon je vais te mordre. Je parle normalement. Voilà. Et lui, à moindre chose, il dit ben voilà, il est ratonne.
Voilà. Alors, dans cette interaction, Lamia propose une description de ce qu'elle entend par normal, soutenu, ratonne, en rapportant cette description à des situations familiales qui relèvent donc de la sphère privée. Alors dans cette activité de catégorisation de style de parole, hein, ou de registre de langue si on veut, on voit que c'est principalement l'imitation qui lui sert de procédé différentiel, encore qui lui sert à contraster et à expliquer en fait ce qu'elle entend par normal, soutenu. pour construire donc deux contre-types langagiers, Soutenu et Ratton. Et affirmer, pour ce qui concerne sa façon de parler, un positionnement intermédiaire qu'elle qualifie de normal entre ces deux styles. Alors, comme vous avez pu l'entendre tout à l'heure, l'alternance des styles Soutenu et Ratton, quand elle les imite, hein, comprend des variations au niveau du débit, du rythme du débit, de la hauteur et de l'intensité de la voix, de la fréquence de réalisation des schwa, des e muets, qui sont en majuscules ou entre parenthèses dans la transcription, hein, selon qu'ils sont prononcés ou pas, et de choix lexicaux et morphosyntaxiques qui fonctionnent comme stéréotypes de chacun des styles dont elle entend se démarquer et pour placer son curseur de la normalité. Bon, là encore, on pourrait dire beaucoup de choses sur cet extrait, mais je vais un peu avancer. Alors, pour conclure quand même sur cet extrait, je dirais que l'effort de construction d'une image éloignée de la figure de la ratonne illustre bien le fait qu'elle n'assume pas et revendique encore moins cette identité socio-ethnique, alors que on connaît des garçons qui vont jouer aussi sur la revendication, pas tous, hein, mais bon, et puis des filles aussi peuvent revendiquer. Mais là, dans ce contexte, le raton, c'est toujours un autre que soi. Aucune fille membre du groupe des 13 ne revendique cette identité. En même temps, force est de constater que leur comportement dans les salles de classe correspondent rarement à ceux qui sont attendus et acceptables. Ce qui participe bien sûr à renforcer les attributions négatives et notamment l'attribution de locutrice incompétente. Donc elle se présente le plus souvent en actualisant ce type de style de parole dans ce contexte. Alors, ce que j'essaie de dire, c'est que dans cette classe, comme dans bien d'autres espaces de la société française contemporaine, les catégorisations sociales, linguistiques, scolaires et ethniques qui se déploient dans les discours des différents acteurs de la classe, ces catégorisations, elles révèlent au final des modes de relation qui sont fondés sur des attitudes qui tendent à radicaliser, à hiérarchiser et surtout, je crois que c'est là, enfin en tout cas ce qui me semble le plus important, à essentialiser des différences, y compris linguistiques, à naturaliser, donc à enfermer un individu dans une catégorie, en l'occurrence langagière. Alors ce constat, il justifiait particulièrement, il me semble, une réflexion didactique sur la variation et sur le plurilinguisme dans le domaine dans lequel on est compétent pour intervenir. Hein. Alors pour ce qui concerne donc les questions d'éducation langagière et la déstigmatisation d'élèves porteurs de compétences de ressources linguistiques peu valorisées, que ce soit au lycée ou en famille, ou ailleurs, apparaissait comme un enjeu central, d'abord pour l'amélioration des relations entre les deux groupes, puisque les styles de parole, même si beaucoup d'autres facteurs ou beaucoup d'autres caractéristiques servaient à différencier les groupes, le langage était quand même au cœur des conflits. Donc d'abord, amélioration des relations entre les deux groupes et entre ces groupes et les enseignants. Et puis, une réflexion dans ce sens-là nous semblait aussi nécessaire à un meilleur déroulement des activités scolaires, qui ne se déroulaient pas très bien quand même assez souvent. Alors on s'est fondé sur l'hypothèse que cette déstigmatisation, elle pourrait peut-être être soutenue par la construction d'une culture langagière partagée, qui seraient susceptibles de modifier des postures mutuelles de rejet ou des attitudes d'auto-dénigrement, comme j'en ai évoqué tout à l'heure. On visait également, dans notre recherche de pistes pédagogiques, le développement de capacités métacommunicatives. Alors, pour tous les élèves, évidemment, pas seulement pour les 13, pour les 13, les 6, les garçons, quand ils venaient. Donc, des capacités métacommunicatives qu'on pensait susceptibles de les aider à exploiter plus efficacement leurs répertoires verbaux. Alors, faut peut-être que je précise que les 6 n'étaient pas particulièrement en situation de réussite scolaire. Voilà, je parle beaucoup des 13, mais... l'ensemble des élèves était dans un rapport fragile, délicat, sensible à l'école et aux activités qu'elle propose. Donc on avait deux principaux objectifs. D'abord, mieux connaître les pratiques et les appropriations langagières réalisées au lycée, mais aussi en dehors de cet espace. Et on souhaitait aussi contribuer à diversifier les horizons communicatifs des élèves, en supposant que pour certains d'entre eux, je ne sais pas si c'est très clair, mais en supposant donc que pour certains élèves, une part de leurs compétences de communication se trouvait pour différentes raisons démobilisée ou désactivée au sein de l'espace géographique institutionnel du lycée. Bon, ça va peut-être s'éclairer après. Donc, dans ces buts, on a mis en œuvre un certain nombre d'activités avec un enseignant de français, un enseignant d'anglais, donc lettres histoire, lettres anglais, mais l'enseignant de français de la classe et l'enseignant d'anglais. Et une de ces activités a consisté dans la réalisation par les élèves d'une enquête sur la diversité linguistique présente sur un marché situé juste en face du lycée. Alors cette activité, elle visait en particulier le développement de compétences interactionnelles qui sont nécessaires au genre discursif et interactionnel de l'interview. D'accord ? On travaillait sur l'interview, mais l'interview à l'oral. Enfin, pas seulement, mais ce qui était quand même l'objectif principal, c'était de développer des compétences dans ce genre. Et elle se décompose donc en quatre phases. Hein. Donc il y a eu une phase de préparation des interviews. Par petits groupes, les élèves ont élaboré un guide d'entretien. Après avoir observé des interviews radiophoniques, paradiophoniques, etc. Enfin, oral, écrit... donc toute une phase de préparation des interviews, la réalisation des entretiens sur ce marché, suivie d'une mise en commun en classe et en prolongement, et c'était la finalité de l'ensemble des séances, la rédaction d'un compte-rendu de type journalistique. Donc quatre phases, mais je vais me centrer ici sur l'épisode B, où les élèves sillonnent le marché avec leur guide d'entretien en main et un mini disque enregistreur pour mener leur enquête. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails du déroulement, mais je vais faire donc trois zooms à partir de trois extraits d'interview réalisés par les élèves. Dans le premier, on va retrouver la Mia qu'on vient d'entendre, cette fois dans le rôle d'enquêtrice. Donc on l'a entendu dans le rôle d'interviewée, où elle prenait d'ailleurs... facilement la main à l'intervieweur que j'étais, mais là on va la retrouver dans le rôle de l'enquêtrice dans la réalisation d'une tâche scolaire. Le deuxième extrait va illustrer un phénomène de variation stylistique, et le troisième illustrera le recours à une compétence plurilingue pour la réalisation de cette même tâche. Donc, premier zoom avec l'extrait D, qui met, je crois, assez bien en évidence une capacité de variation stylistique et une étendue du répertoire de Lamia qui viennent contredire de manière assez frappante l'impression qu'elle peut donner par ailleurs, et souvent, d'être enfermée dans cette identité stigmatisée, désignée souvent de ratonne. Alors cet extrait, il est en fait composé de 3 extraits d'une interview. Hein, donc on est sorti du lycée, on est sur le marché, et Lamia aborde une dame qu'elle ne connaît pas, donc une adulte inconnue, qui est L1 dans la transcription, que vous avez aussi sur l'exemplier, et que vous n'aurez pas, je crois, là. Non, je ne l'ai pas mis. Donc elle l'aborde pour l'interviewer sur les langues qu'elle connaît. Alors je vais vous faire écouter, mais on entend à partir de la ligne 11.
On peut vous poser des questions ?
Oui, si vous voulez.
On voudrait savoir combien de langues vous utilisez dans votre vie, des langues.
Combien de langues ?
Si, le français, l'italien.
Oui, français, j'ai utilisé une langue que vous ne connaissez pas.
Vous pouvez la dire s'il vous plaît ?
Letton.
C'est quoi ?
Letton.
Letton ?
Oui, Letton.
Letton.
Ça c'est des pays baltes qui est au nord.
Les Pays-Bas ? Les Pays-Bas ?
Pays baltes.
Ah, Pays baltes. Oui. C'est où ça se situe ?
Ça c'est Allemagne, Pologne et Estonie.
Donc deuxième...
Et cette langue... Excusez-moi. Vous connaissez beaucoup de gens qui la parlent ?
Il y a quelques familles qui habitent ici qui parlent aussi. Notre langue. Les langues lettonnes. Nous sommes de Lettonie.
Lettonie.
Oui. Riga. Avec la ville principale, Riga.
Ah, c'est la ville, c'est la nationale en fait.
Voilà.
C'est la capitale.
C'est la capitale.
Voilà, c'est la capitale.
Et vous ?
Ah bah merci bien, madame. Passez une très bonne journée. Au revoir.
Merci.
Voilà. Je trouve que le contraste avec l'extrait précédent, il est quand même... Bon, c'est la même, hein, c'est la mienne, mais il est assez frappant. Et moi, ce qui me frappe toujours, c'est que j'ai mis très longtemps avant de repérer cette variation. Et elle, la mienne elle-même ne se pensait pas être parfois dans ce rôle et dans cette façon de parler. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on est tous souvent victimes de filtres, voilà, d'attribution, et que on peut être, on peut avoir des points, il peut y avoir des points aveugles sur des compétences qui nous échappent totalement parce que on est victime de nos filtres de perception. Quoi. Et donc, Lamia, dans cette situation. Bon, elle porte une forte attention à son discours, elle respecte les normes du genre de l'interview, globalement, elle manifeste un effort de convergence, puisqu'elle interviewe, en plus, la situation n'est pas forcément évidente pour tout élève, hein. Elle va au bout, quand même, de cet échange dans lequel il y a des malentendus, il y a des incompréhensions, il y a pas beaucoup de connaissances partagées de ce dont il est question. Sauf qu'il y a une grosse connaissance partagée quand même, c'est le plurilinguisme, hein, et donc elle est habituée aussi à interagir, donc elle est habituée, elle a une connaissance du plurilinguisme et elle a aussi des connaissances, des compétences, je pense, pragmatiques d'interaction avec des personnes plurilingues. Donc elle manifeste un effort de convergence, d'ajustement et de co-énonciation avec la personne qui est interviewée. Alors on pourrait encore souligner des variations encore plus importantes que dans le premier extrait où elle stéréotypait les deux contre-styles, enfin les deux styles, je perds mes mots, c'est pas du tout... Oui, voilà, soutenu et raton. Merci. Donc là, de manière encore plus marquée, on peut souligner des variations très importantes au niveau, au plan phonétique, au niveau de la hauteur de voix, sur le plan du rythme, du débit aussi. Donc le répertoire de Lamia, il comprend bien, on vient de l'entendre, un certain nombre de ressources qui sont susceptibles d'être reconnues, voire valorisées dans l'espace scolaire. Ressources qu'elle mobilise dans certaines situations comme dans celle-ci. Alors, qui est une activité scolaire ? À n'en pas douter, on est dans les programmes, on est dans une activité qui rentre complètement dans le programme de seconde BEP, bureautique, secrétariat comptabilité. D'ailleurs, dans n'importe quel programme de seconde professionnelle, y compris dans les nouveaux programmes 2009. Hein, là, on était dans la référence au programme de 92. Mais cette activité, elle est un peu particulière, puisque elle se déroule à l'extérieur de l'espace physique du lycée, et dans une configuration sociale assez différente que celle de la classe. Et la tâche communicative qui est proposée aux élèves est à ce titre donc assez atypique. Toujours est-il qu'au-delà de l'AMIA, hein, du cas de l'AMIA, pendant cette activité hors les murs, plusieurs élèves se montrent capables de mobiliser une gamme bien plus étendue de leurs ressources langagières que ce qu'on leur attribue souvent et ce qu'elles veulent bien aussi activer, mobiliser dans des activités scolaires. Donc c'est aussi le cas de Ouria. Cet autre extrait qui met en scène donc Ouria, une autre des leaders des 13, et Laura, sa meilleure copine. Donc ça va me permettre de mettre en évidence un travail collaboratif. Donc travail collaboratif d'appropriation du genre discursif et interactionnel de l'interview, qui va passer ici par un travail de stylisation, enfin, ce qu'on appelle un procédé stylisation en sociolinguistique interactionnelle, mais bon, peu importe, c'est une alternance de style, quoi. Donc deux mots du contexte, Laura et Ouria se préparent à accoster leur première interviewée. Et avant de se lancer, bon, il faut dire que Laura surtout a la trouille, hein, donc les élèves vont interviewer avec un mini-disque des adultes qui ne connaissent pas sur un marché, des adultes qui sont soit en train de faire leurs courses, soit en train de faire leur commerce, donc la situation peut être considérée a priori comme assez anxiogène, enfin... Et donc elles s'entraînent avant de se lancer, elles se livrent à une sorte de jeu de rôle, dans lequel elles vont projeter la séquence de l'accostage, et cette activité va donner lieu à une sorte de mise en bouche de l'activité langagière et à une mise en scène de soi qu'on peut, alors que moi j'interprète à la fois comme un travail d'incorporation du style ou du registre formel et comme un phénomène de déroutinisation, c'est-à-dire l'utilisation de ressources qui vont rompre radicalement avec l'usage le plus courant entre ces deux partenaires conversationnels qui discutent beaucoup entre elles, qui sont vraiment des partenaires privilégiés de conversation. Alors je vais vous demander de bien prêter attention au glissement stylistique en écoutant.
Vas-y, arrête, s'il te plaît.
Alors, tout n'est pas transcrit, ça commence un peu avant.
J'ai envie d'en prendre une, des couleurs. Mais allez, c'est des simples couleurs bidon.
Il est falche, Gouboss.
Bon, on va les interviewer, les gens, là.
Allez, 3 euros.
Bah, allez, hein. Tu commences ?
Vas-y, c'est toi qui commence après.
Bah non, parce que moi je tiens ça après, c'est bon. On parle après, c'est temps. Nescaf, tu fais ouais. Tu fais bonjour. Nous sommes élèves au lycée André. Et nous inquiétons sur la population, sur les différentes langues de la population.
Utilisées.
Sur les différentes langues utilisées par la population grenobloise. Zem, tu dis ça ? Donc, allez, la femme là-bas, elle a envie d'être questionnée, ça se voit bien.
Bon, alors, on voit bien que c'est Ouria qui donne le ton, hein, et bon, il y a toute une réflexion, je pense, à mener en sociolinguistique de l'éducation interactionnelle. Oui, je crois que j'ai presque fini. Sur le rôle des leaders, hein, donc leaders qui sont souvent, on a souvent, première approche, on les catégorise comme leaders antiscolaires. On se rend compte que dans des situations qui, là, moi j'y ai accès parce que ça a été enregistré par elle, il n'y a pas d'observateur adulte professionnel de l'éducation directement en train d'observer ce qu'ils sont en train de faire. Hein, aussi, je crois que, enfin, tout ça, c'est sans doute à creuser. Donc, elle donne le ton du genre interactionnel en initiant une alternance stylistique tour 3. Tu fais ouais, et en marquant la fin de cette alternance dans le tour 7 avec le commutateur, ce qu'on appelle commutateur, Zarma. C'est un ponctuateur, ponctuateur du discours. Hein. Enfin, là, en l'occurrence, c'est même la fonction de commutateur. Hein. Donc, il signale la clôture de l'énoncé formel et le retour à un style vernaculaire entre pairs. Donc, on rentre à nouveau dans la routine, dans le style routinier. Donc, on entend en amont et au début de l'extrait transcrit qu'elle mobilise ce style propre aux échanges entre pairs. Alors, ce style, il est marqué, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais notamment par l'affrication des consonnes, c'est le fait de pas dire te, mais tche. De, qui est prononcé plutôt je, par la réalisation postérieure du R, donc re, les couleurs, des termes comme dicave ou encore des marqueurs de discours comme la mec. Bref, autant de traits qui sont susceptibles de manifester positivement l'appartenance au groupe de pairs et d'indexer ou de signifier un positionnement rebelle, antiscolaire ou vulgaire selon les situations et les auditeurs. Alors le passage à un style plus formel, il est marqué par contraste par un un ralentissement du débit, un changement vocoprosodique qui d'ailleurs n'est pas maintenu très longtemps, mais bon, c'est et l'utilisation du pronom nous et la réalisation d'une liaison facultative nous sommes au. Alors ce que je voudrais maintenant illustrer pour finir, et pour conclure peut-être, avec un tout dernier extrait, c'est le fait que cette activité, alors activité qui était centrée sur l'apprentissage des normes d'un genre, donc le genre de l'interview, c'est-à-dire sur un type d'activité langagière et non directement sur la langue française, cette activité, elle a parfois permis de faire un pas vers la fameuse reconnaissance dont il était question ce matin, de ressources plurilingues généralement ignorées quand elles ne sont pas considérées comme des freins aux apprentissages linguistiques et aux apprentissages parfois tout court. Alors dans cet extrait qui est le premier extrait E, parce que j'ai vu que j'avais mis deux extraits E sur l'exemplier, on a affaire à Ouria. Donc on vient d'entendre, et Youssef, qui sont tous les deux locuteurs d'arabe vernaculaire, donc d'arabe dialectal, tunisien pour Youssef et algérien pour Ouria. Et ces deux élèves, ces deux intervieweurs, vont être amenés à mobiliser une compétence de réception en arabe parlé maghrébin pour mener à bien une interview. Donc je ne vais ni vous faire écouter ni lire, pardon. mais on peut simplement noter que l'interview va se dérouler sur un mode bilingue où la langue majoritaire des interventions des interviewés est l'arabe parlé tunisien et la langue majoritaire chez les élèves est le français en production. Donc ils sont bien obligés d'utiliser de mobiliser leurs compétences de réception pour que, d'un côté comme de l'autre, pour que l'échange se déroule. Alors je précise que les consignes destinées à guider l'activité d'interview ne comportaient aucune contrainte explicite concernant la langue ou les langues des échanges sur le marché. Il s'agissait d'ailleurs, entre autres choses, d'observer comment les élèves définiraient eux-mêmes les normes du genre, en faisant notamment l'hypothèse d'un possible recours à des compétences dans d'autres langues que le français. Alors cette hypothèse était fondée d'abord sur le fait qu'on connaissait, on savait qu'il y avait, que certains élèves avaient des compétences plurilingues, mais aussi compte tenu du plurilinguisme des échanges sur le marché, sur ce marché plurilingue, et compte tenu enfin du thème de l'enquête qui portait sur le plurilinguisme grenoblois. Bon, il y a eu une seule, enfin non, c'est pas vrai, il n'y a pas eu qu'une seule interview bilingue. Non, il y en a eu d'autres, mais majoritairement, les interviews sont déroulées en français, bien sûr. Mais celles-ci, plus une ou deux autres, je crois, ont amené des élèves à mobiliser des compétences dans d'autres langues. Alors, un travail de... Dans la phase du travail, je crois que j'ai fini mon temps là. non, mais je finis. Donc ensuite, un travail sur cet aspect-là a eu lieu en classe, hein, dans le cadre d'une mise en commun et d'une réflexion métacommunicative. Et pour Ouria, pour Youssef, pour Lamia, mais pour d'autres aussi, au cours de ce bilan collectif en classe, des petites réussites interactionnelles de ce type vont donner lieu à des manifestations d'une certaine fierté qui s'accompagne aussi d'une reconfiguration ponctuelle, très ponctuelle, hein, mais dans les relations entre les groupes. Donc c'est un moment où on voit s'entrouvrir des petites brèches qui semblent propices à des processus de défigement ou de décristallisation de certaines postures. Alors ce qu'on observe aussi, c'est que immédiatement rentré dans la classe, chacun réendosse son rôle, et y compris l'engagement de leader, des 13, des 6, etc. Et le fait même que certains récits se déroulent avec cette casquette amène l'enseignant parfois à ne pas entendre. bien que dans cette activité, puis bon, c'est un enseignant qui est impliqué dans ce type de démarche, mais voilà. Donc évidemment, quand on se demande dans quelle situation les styles les plus formels de ces adolescentes sont susceptibles d'émerger, une réponse est tout à fait certaine, c'est que ce n'est sans doute surtout pas dans la classe. Bon, point d'interrogation. Et je crois que, bon, je pourrais continuer, mais je pense que je vais m'arrêter là et...